Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de La Clé des Champs. Ce soir, l'émission a un petit côté objet volant non identifié. Alors, imaginez une bulle nomade, une structure gonflable qui respire comme un organisme vivant. Non, ce n'est pas un vaisseau spatial, c'est l'UMA, l'unité mobile d'action artistique, et ça s'apprête à atterrir sur notre territoire. Aujourd'hui, ce sera le cœur de notre émission, et pour en parler, Valérie, tu reçois Olivia Granville, directrice du Centre chorégraphique national 1000 plateaux, pour nous dévoiler les secrets de cette unité mobile d'action artistique qui va faire vibrer sur Gère. On gardera ensuite les pieds sur terre avec Héloïse, qui est allée traîner ses micros du côté des réserves départementales d'archéologie pour chercher à comprendre le destin du mobilier archéologique retrouvé sur sa villa gallo-romaine à Saint-Saturnin-du-Bois. Et puis nous recevrons dans le Zoom la compagnie des 3C Théâtres. Agnès Brion sera avec nous, elle viendra nous parler de l'anniversaire de la compagnie, 30 ans quand même, mais aussi de leur actualité et de la riche programmation à venir. Et enfin, nous retrouverons Renaud, qui nous livrera ses meilleurs plans sortis pour vos mois de février et de mars. Alors c'est parti pour 30 minutes de culture gonflée à bloc, on y va!
Bonjour Olivia Granville.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission. Comme l'a dit Guillaume, vous êtes directrice du Centre National Chorégraphique de La Rochelle et Mille Plateaux. Et si vous êtes chez nous, c'est parce que nous avons un grand projet qui va arriver sur Surgère au printemps. Pouvez-vous tout d'abord vous présenter, histoire qu'on fasse connaissance?
Alors, moi je suis danseuse en fait, avant tout, et chorégraphe. Et j'ai effectivement été nommée en 2022 à la direction du Centre chorégraphique de La Rochelle, qui sont donc des structures qui sont exclusivement dirigées par des artistes. Et j'ai candidaté donc pour être nommée là. Et dans mon projet, qui s'est écrit vraiment au moment du Covid, post-Covid, etc., à un moment où on se posait beaucoup de questions sur la place de la culture, soi-disant non essentielle, sur le fait que peut-être il fallait sortir des théâtres, qu'il fallait penser aussi à des comportements plus écologiques par rapport à nos pratiques. Ben, il y a toutes ces questions-là m'ont travaillé dans l'écriture de ce projet, et en même temps que j'écrivais le projet pour le CCN, à l'intérieur de ce projet, il y avait déjà l'UMA qui était posé, et en fait c'est un projet qui même venait d'avant, puisque je venais de Nantes. Avant, j'étais artiste associée au lieu unique à Nantes, et j'avais déjà proposé un projet qui s'appelait le Dance Park, et qui s'était installé pendant 3 mois au lieu unique, et où s'étaient succédé comme ça des artistes qui venaient proposer des performances, des ateliers, des rencontres. Donc, une autre manière d'aller à la rencontre des publics.
Donc l'UMA, ça fait un peu vaisseau spatial, on en rigolait tout à l'heure. Comment est-ce que Surgère et le territoire d'Ony-Sud s'est retrouvé dans votre programmation? Et je crois que vous avez des liens avec la cité scolaire également et le cinéma Le Palace.
Oui, absolument. Alors c'est né de ça, puisque quand on est arrivé en fait, quand tu es arrivé à la chapelle Fromentin, ben, c'était Vincent Ruyer qui était proviseur, je me trompe toujours, principal ou proviseur, bon, du collège, bref. Et immédiatement, on s'est rencontrés et on a commencé à faire plein de choses avec lui, dont l'inauguration où il a ouvert la cour du collège et où on a fait tout un travail avec les collégiens. Et donc, quand il est arrivé ici, on avait déjà l'envie de continuer à travailler ensemble. Donc, ça fait déjà 2 ans qu'il y a des projets, qu'on mène des projets avec les élèves de
avec
la cité
élèves.
Scolaire. Donc ça a été le premier, la première accroche avec la ville de Surgère. Puis après, moi, j'ai découvert la ville de Surgère avec ce château magnifique, avec ce parc magnifique. Je me suis dit, mais c'est là qu'il faut qu'on fasse l'UMA, puisque quand j'ai pensé ce projet, c'était vraiment l'idée d'aller sur des territoires, et parfois des territoires ruraux, pas seulement, parce qu'il n'y a pas que les territoires ruraux qui manquent de culture parfois, il y a les villes aussi, c'était vraiment sortir des théâtres et aller d'une manière différente à la rencontre des habitants, et surtout sur ce territoire, puisque la région Nouvelle-Aquitaine, elle est quand même énorme, avec des grandes villes, mais assez espacées les unes des autres. Donc comment est-ce qu'on fait pour pas toujours aller dans les grandes villes, en fait, faire des choses?
Et le cinéma sera partenaire également,
Et le cinéma, donc on a rencontré ultérieurement Jérôme. Alors le cinéma, le
Jérôme
Palace...
Jérôme Bagnon, le directeur.
Oui, voilà, oui. Sera partenaire. Moi, il se trouve que je suis absolument fan de cinéma, que le cinéma... Il y a beaucoup de liens, en fait, entre l'histoire de la danse contemporaine, hein, puisque je suis chorégraphe de danse contemporaine, et le cinéma, c'est en fait la modernité en danse, elle est née à peu près à la même époque que le cinéma. On a en ce moment moment à la Chapelle Fromentin à La Rochelle une exposition qui s'appelle 24 mouvements par seconde jusqu'au 14 février. Cette exposition, on va la transporter ici, puisque l'UMA c'est aussi un peu ça, hein, c'est aussi un peu un centre chorégraphique délocalisé. On va la transporter ici au Microfolie, à la Microfolie. Avec Jérôme, on a imaginé une programmation en amont de notre venue où il va y avoir tout un programme de films en lien avec la danse, mais des films aussi grand public, pas des films de danse, des films. Enfin, le cinéma a des liens avec la danse en dehors même du fait d'être sur une captation de spectacle, voilà. Il va y avoir cette programmation puisque toute l'idée, c'est vraiment de rencontrer les habitants sur un long temps pour que quand on arrive avec cet objet qui est effectivement assez étonnant, en fait, ça soit les gens se l'approprient un peu comme étant le leur, puisque voilà, ils ont travaillé dedans, les enfants ont fait des ateliers, ils sont déjà dans une relation à cet objet familière, on va dire.
Alors, avant effectivement de parler de l'appel à participation, on y reviendra. Dans un premier temps, vous allez commencer à travailler avec les écoles. Donc, sur le territoire, on a l'école de Bouët, Saint-Georges-du-Bois et Surgères, où les classes de primaire vont avoir la chance de travailler avec des artistes associés au CCN et la cité scolaire également. Comment ça se passe la rencontre entre les artistes et les enfants ou les adolescents?
Là justement ça commence aujourd'hui puisque donc on a fait appel à une plasticienne qui s'appelle Carole Marchais et qui commence son travail avec des élèves de seconde en création culture et design à la cité scolaire. Le travail avec les enfants et avec les scolaires, c'est formidable parce que ça se passe très bien parce que on a toujours il y a une dimension de jeu, de d'invention, de découverte, de créativité, de liberté aussi qui fait que ça se passe toujours bien, mais c'est surtout qu'est-ce que ça laisse comme trace en fait pour eux. Comment est-ce que tout d'un coup, parce qu'ils sont impliqués dans une pratique, on éduque le regard aussi de futurs spectateurs. C'est très intéressé en fait notre démarche, hein. C'est pas du tout altruiste, hein. En fait, nous on veut créer des spectateurs qui ont un regard aiguisé, donc voilà, on fait ça, on les prend tout petits, quoi. On essaye de les...
Et donc ces enfants auront la chance de pouvoir montrer ce qu'ils auront fabriqué, ouais. Travaillé lors de la semaine du mois de mai où la structure sera installée dans le parc à Surgères.
Il y aura deux installations, hein. Il y aura une première installation dans la cité scolaire au mois de
avril,
voilà, où justement dans cette cité où il y a quand même énormément d'élèves qui quasiment vivent là en fait, puisqu'il y a vraiment c'est une vraie cité pour le coup. Il y a cet objet avec lequel ils vont cohabiter. Il y aura des programmes de cinéma justement dedans. Il y aura un dance floor. Alors les élèves sont tellement contents qu'il y a un dance floor, ça va être formidable. Et ça sera ouvert aussi au public. Donc ça sera cette bulle qui est très grande, hein, puisqu'elle fait 26 mètres sur 13, elle se sépare en deux bulles. Donc là, ça sera la petite bulle qui sera dans la cité scolaire. Et après, on installera la grande dans le parc du château. Et c'est aussi l'idée que sur la durée, il y ait quelque chose aussi qui se construise. C'est circuit court et temps long, en fait. C'était ça l'idée de l'UMA, de base.
Vous avez parlé de l'exposition 24 mouvements par seconde,
oui.
C'est ça, qui se trouve donc au CCN actuellement. Je crois qu'une partie de cette expo sera également présentée au mois de mai à la Microfolie à Surgères.
Oui, absolument. Une partie parce qu'on va mettre le maximum de choses. On ne sait pas si tout va rentrer, mais oui, il y a eu tout de suite cette rencontre aussi avec la Microfolie et ça faisait complètement sens de pouvoir organiser cette expo. Là, donc cette exposition, c'est justement une exposition qui questionne un peu le lien entre la danse et l'image, parce que on voit des captations de spectacles sur certaines chaînes de télévision, mais en fait, un spectacle de danse filmé, c'est plus un spectacle de danse, c'est autre chose, c'est un film. voilà. Et par contre, il y a énormément de liens passionnants entre l'image et la danse, et surtout d'artistes qui se sont vraiment emparés de cette chose-là en disant, je ne crée pas un spectacle de danse, mais je crée un film de danse. Donc, il va y avoir des œuvres comme ça, diverses et variées, qui vont être montrées et qui traversent aussi une histoire de la danse. Parce que moi, en dehors du fait que je suis danseuse et chorégraphe, le fait d'être directrice de CCN, j'essaye de diffuser au maximum une culture chorégraphique qui est assez mal connue finalement.
Mmh, complètement. Alors, si on va maintenant sur le côté de l'habitant du territoire, parce que l'idée c'est quand même que le CCN sorte de La Rochelle et arrive sur Surgères, comment la population va être associée à cette semaine d'activité, d'activation de l'UMA sur le territoire ?
Alors justement, associés, on a rencontré tout un tas d'associations déjà, pour leur expliquer le projet, pour susciter chez eux l'envie aussi de faire des propositions. Et donc ça a été le cas quand même, hein, pas mal, ça a bien répondu. C'est des associations qui soit ont un lien avec un domaine artistique et qui vont intervenir sur le plan artistique, comme par exemple le conservatoire qui va venir proposer un concert, l'association Évidence qui vraisemblablement va venir danser. Mais c'est aussi des gens qui peuvent nous accueillir les artistes pour les loger, qui peuvent nous aider à accueillir le catering, et en l'occurrence là on sera à l'association Avant-Première qui va accueillir le catering, les artistes pendant les moments où ils seront là. Donc c'est des liens aussi de quotidien en fait, qu'on a envie de susciter, comme si on était une espèce de campement comme ça éphémère,
c'est ça,
et qu'on vivait là.
Sur cette bulle, il y a toute une équipe
d'artistes, une équipe de musiciens, de techniciens, que je pourrais citer après. Et les habitants, on va aussi les impliquer d'une autre manière, parce qu'on leur propose de participer à un projet. Et donc on lance lance bien aujourd'hui l'appel à participation pour un groupe, on espère, de 50 personnes.
D'accord.
Avec qui on va partager quelques temps d'atelier pour préparer une performance. Et il n'y a pas besoin d'être danseur, il n'y a pas besoin d'avoir une agilité particulière pour faire les choses. C'est plutôt l'idée de travailler sur le groupe, en fait, et comment est-ce qu'on peut, sans forcément avoir de préparation physique liée à la danse. Encore une fois, la danse, ça commence à la marche. Hein. Donc, en fait, c'est assez simple. Ça commence même avec deux mains qu'on ouvre et qu'on ferme. Si on le fait ensemble, tout d'un coup, ça devient peut-être quelque chose. Enfin, on ne sait pas. Voilà.
Donc là, il va y avoir effectivement un appel à participation.
Ouais.
Donc, tout à chacun peut s'inscrire.
Absolument.
Et travailler avec un chorégraphe. Avec vous ?
Oui, avec moi et avec deux danseurs qui vont m'accompagner aussi dans cette transmission.
D'accord. Et il y a des conditions ?
Dans cette transmission, dans cette invention d'ailleurs, parce qu'en fait, j'ai plein de petits objets comme ça que je peux éventuellement transmettre à des amateurs. Je ne sais pas encore ce que je vais faire en fonction du groupe que j'aurai en fait.
D'accord.
Donc on va inventer aussi des choses ensemble.
C'est super, ça donne envie en tout cas. Donc on aura effectivement toute une campagne d'affichage et de communication qui va démarrer avec un QR code, c'est ça, pour pouvoir s'inscrire.
Oui,
si on est intéressé par
absolument.
Ce projet. Ça va demander un petit peu de disponibilité,
il
faut être disponible sur les week-ends, et puis surtout être présent le 30 et le 31 mai à Surgères.
Absolument, voilà.
Un peu plus de détails à nous donner.
Alors,
sur ce qui nous attend.
Disons que, juste pour dire un petit mot quand même de l'UMA, Unité Mobile d'Action Artistique.
Oui.
Pourquoi Action Artistique ? Parce que parfois on parle de danse et il y a des gens qui peuvent dire « Ah ben non, mais la danse, moi ça m'intéresse pas » ou « C'est pas pour moi » ou voilà. Oui. Donc l'UMA, c'est aussi l'idée de proposer plein de formats différents. Des ateliers, une exposition de films, un concert, un dance floor, des performances, une promenade littéraire où j'ai envie de partager ma bibliothèque avec les gens, donc les gens peuvent se balader dans cette espace très particulier et écouter des textes qui n'ont pas forcément trait au corps ou à, voilà, qui sont juste des textes. Donc il y a plein de propositions. Il y a des artistes bien sûr qui vont proposer des formes, donc le collectif AR qui sont nos nouveaux artistes associés, moi qui vais présenter un solo qui s'appelle Argentique, Martin Gilles-Henriquet qui est un formidable danseur qui propose son premier solo, Léa Vinette qui est une jeune chorégraphe aussi qui elle va être vraiment en résidence dans le château, ouais, puisqu'elle veut créer quelque chose pour l'espace. Donc il y a aussi évidemment l'idée du in situ, comment est-ce qu'on travaille sur place avec un lieu et que les programmes qu'on propose avec l'UMA changent à chaque fois en fonction des endroits où on joue quoi. En fait on a créé l'UMA à Cognac il y a 2 ans maintenant, on l'a tourné la saison dernière dans pas mal de villes puisqu'on a été à Paris, Clermont-Ferrand, Lausanne, Lyon, Rennes,
que des grandes villes
et c'est pour ça qu'on est très content d'être là.
Et nous aussi.
Parce qu'en fait, le vrai objectif vraiment de l'UMA, on a tourné dans ces grandes villes, ça nous a permis de faire connaître l'objet, et puis on était accompagnés par des gros coproducteurs, et sinon on n'aurait jamais pu le créer. Mais en fait, c'est la vraie vie de l'UMA qui commence là, puisque l'idée était justement d'aller sur des lieux qui étaient moins dotés et de faire ce travail au long cours avec les habitants. Donc ce programme, il n'est pas encore, on pourra le découvrir vraiment en avril, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y aura à peu près tout ce panel de propositions très diverses. Et puis, il y a l'objet lui-même. Ça n'est pas un chapiteau, c'est un objet d'artiste. C'est une artiste qui s'appelle Coqui Eck qui l'a créé. Et en fait, le simple fait de pénétrer dans cet objet est déjà une expérience sensible particulière et crée une espèce de curiosité aussi, tout simplement. On a envie de savoir qu'est-ce que c'est que ce machin.
Je crois que vous avez donné envie à tout le monde de savoir.
J'ai une petite question. Est-ce que ça change justement au niveau sonore la façon dont les artistes interprètent leurs prestations ou alors au niveau des spectateurs, comment ils ressentent aussi les choses?
Alors, ça change beaucoup de choses. D'abord, parce que la place du spectateur n'est pas assignée. Donc, par exemple, les premières fois qu'on l'a fait, quand on a fait une résidence à la briqueterie, les gens rentraient et disaient « Mais je ne sais pas où me mettre. » Et en fait, le fait de ne pas savoir où se mettre, c'est super parce que tout d'un coup, ils ont une proximité avec les artistes qui n'est pas du tout celle d'un plateau. Et ça crée complètement autre chose. Au niveau sonore, vous avez raison de le signaler, c'est très particulier parce que comme c'est que des voûtes, il y a une acoustique très, très, très singulière où on a l'impression, le son rebondit comme ça d'une paroi à l'autre. Parfois, on parle à un endroit et on entend le son de l'autre côté. Donc, c'est vraiment, parce que c'est pas un pneumatique, c'est un gonflable. C'est-à-dire que il y a des soufflants en permanence qui alimente cet objet qui est donc un peu vivant, enfin qui respire un peu. Et quand on rentre dedans, il y a une espèce de gap spatio-temporel un petit peu. C'est vrai, vraiment, qui fait que on est dans un espace particulier. Quand on ressort, on a un peu oublié ce qui se passait dehors en fait. Donc c'est cette expérience là qui est importante à partager.
Vous êtes une passionnée et vous nous donnez vraiment envie de participer à ce projet avec vraiment beaucoup d'envie.
Chouette. J'ai oublié de citer l'Office de Tourisme.
Oui, où on va quand même. Il y a plein de partenaires à venir.
Voilà, il y a plein de partenaires, dont l'Office du Tourisme, qui accueillera un petit film sur la genèse de l'UMA. Et voilà, donc qui est partenaire aussi de ce projet.
Mais merci beaucoup, Olivia Granville, d'avoir partagé toute cette passion avec nous. Et on a hâte de vous retrouver au mois de mai, donc du 27 au 31 mai, dans le château à Surgères.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
Merci à toutes les deux. On a hâte de voir cette activation donc, de l'UMA à Surgères. Et donc, comme vous le disiez, on pourra retrouver toute la programmation de l'UMA à compter du mois d'avril. On quitte maintenant les airs pour revenir les pieds sur terre et même sous terre. On retrouve Héloïse. Bonjour Héloïse.
Et bonjour Guillaume.
Héloïse, tu es allée enquêter sur ce que deviennent les trésors que l'on déterre. C'est bien ça ?
Oh oui, et j'ai découvert beaucoup de trésors dans les réserves départementales d'archéologie. Donc c'est là où on va conserver ce qu'on appelle le mobilier archéologique, donc l'ensemble des trésors qui ont été trouvés sur différents sites de fouilles. Et donc avec l'équipe de médiation du site archéologique à Saint-Saturnin-du-Bois, nous avons visité ce centre d'études et de conservation du mobilier archéologique qui est situé à Saint-Césaire, à côté du Paléocyte. Nous avons été formés sur l'inventaire de ce mobilier, et ainsi que sur les techniques de conservation de ces trésors que nous avions eu la chance de découvrir. Des ossements, des pièces de monnaie, de la céramique. Et l'objectif est de conserver le mobilier découvert à Saint-Saturnin-du-Bois après étude. En effet, au site, différentes pièces de monnaie et des belles céramiques ont été mises au jour. Du mobilier attestant de la continuité d'occupation du site, comme un strigil, sorte de racloir qui était déjà utilisé par les Grecs, les Étrusques et les Romains pour se laver, pour enlever les peaux mortes, un peu l'ancêtre du gommage, mais aussi un vase mérovingien du 8e siècle, un denier carolingien, ou encore une céramique à glaçure en pierre de galène qui contient du plomb, qui date du 13e siècle. Ces réserves départementales d'archéologie, inaugurées en 2023, sont réunies dans un vaste bâtiment de 2000 m². Elles permettent de contrôler la température et l'hygrométrie, c'est-à-dire le taux d'humidité, pour veiller à la bonne conservation du mobilier archéologique. Le Centre d'études et de conservation du mobilier archéologique ouvre occasionnellement ses portes au public lors des journées européennes de l'archéologie ou encore des journées européennes du patrimoine. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ces trésors.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réserve provisoire. Ici, on dépose le mobilier. Une fois que le rapport est rendu, moi, les collègues, ils me donnent le rapport, ils me disent « c'est bon, tu peux l'enregistrer ». Et je dispatche dans les différentes réserves. Ah, c'est les fouilles du paléolithique.
Vous êtes combien d'employés permanents ?
Au service, on est 10. On a 6 archéologues, dont la chef, chacun avec sa spécialité.
La plus belle pièce, salle photo.
Qui permet d'avoir 3 espaces distincts de photos. Donc cet espace principal où je prends en photo classique. Ça, c'est pour tous les gros objets ou pour ce qui est photogrammétrie. Donc les relevés en 3D à partir des photos. J'utilise le petit tour de potier là. Et ça, c'est pour faire les photos des toutes petites perles ou tout petits détails sur les pièces de monnaie, mais vraiment le détail, genre une empreinte, n'importe quoi, ou sur les os, lorsque ça a été taillé, on peut bien aller voir comment ça a été taillé. On va utiliser ce genre de choses. Après, c'est très très délicat à manipuler.
Avec Théo Aubry, archéologue spécialiste de la période contemporaine, vous intervenez régulièrement sur des sites, notamment ceux de la Seconde Guerre mondiale. Alors, quelles précautions vous devez prendre quand vous êtes amené à retrouver des armes dangereuses ?
C'est des mineurs de La Rochelle, ils ont un petit musée dans leur bunker, ils sont dans un bunker. Ils m'ont montré toutes les précautions à prendre, les différentes armes, les différents... D'ailleurs, c'était hyper intéressant et j'ai bien fait de le faire parce qu'il y a des trucs, on dirait pas que des armes. Et en fait, ils me disaient, ça, tu fais super gaffe, si tu vois ça, tu t'en vas. Le phosphore, ils me disent, si tu tombes sur une bombe au phosphore et que tu commences à voir le sol qui commence à prendre feu tout seul et avec des émanations, il dit là, tout de suite tu recouvres avec de la terre et tu nous appelles. Enfin, plein de précautions comme ça, c'était hyper intéressant.
Comment repérez-vous l'oxydation et l'état de dégradation avancé des matériaux ?
Il y a de l'oxydation qui s'est... Enfin, ça s'est oxydé un moment et ça s'est arrêté et ça bouge plus. Donc ça risque rien, c'est stabilisé en fait. Et après, l'oxydation active... ça fait un petit chou-fleur vert fluo là, sur les pièces en cuivre souvent. Ouais. Ça, c'est de l'oxydation active. Ça veut dire que c'est en train d'attaquer l'intérieur du métal. Donc ça, en général, c'est à traiter.
Quel traitement mettre en place pour éviter cette dégradation rapide de ce mobilier et donc le stabiliser ?
Il y a l'électrolyse. En faisant passer un courant dans le bain, les électrons d'oxydation ils s'en vont. La monnaie sert d'anode et il faut une cathode de l'inox. Les deux dans l'eau, on branche des électrons, hop, ils se déplacent et ils vont se déposer sur la tige en inox qu'on a mis. Il faut s'arrêter à temps parce que par contre ça attaque la monnaie. Ça attaque pas que la corrosion. Donc les deniers tournois, double tournois, je sais pas si vous connaissez l'époque Louis XIII et tout ça, on sait que c'est du cuivre pur, donc là-dessus ça marche bien. La même chose sur du billon, ça marche. Mais ça teinte l'argent. Le bronze, c'est un alliage éteint, cuivre, et ça le teinte. Donc ça marche que sur le cuivre. Donc ça, c'est quoi ? C'est un denier en billon Philippe Auguste, 1214-1223. Donc là, la monnaie, elle est stabilisée.
Nous avons eu de la chance de découvrir de beaux trésors. Merci beaucoup Sébastien Giraud et Clément Gay de nous avoir révélé les secrets de la réserve départementale d'archéologie de Charente-Maritime.
Merci Héloïse pour cette exploration. On reste dans la transmission avec notre Zoom du jour, et pour ça je laisse la parole à Renaud, qui accueille une compagnie qui fait partie du territoire culturel onisien depuis 3 décennies, la compagnie Les 3C Théâtres.
Et oui, nous accueillons aujourd'hui Agnès Brion, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Et nous allons parler de votre compagnie, la compagnie 3C Théâtre.
Oui.
Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre association qui, me semble, fête ses 30 ans donc cette année?
Eh oui, le 15 novembre, ça fera 30 ans. On fait une journée au Castel Park. On n'a pas encore tout à fait la programmation de cette journée-là parce que on avait une réunion de CA qui a été repoussée pour une histoire d'absence de trop. Donc voilà, je peux pas parler à la place du CA de l'association, mais l'idée ce serait effectivement de faire un document déjà qui interviewerait tous les gens qui ont participé, aussi bien les bénévoles que les adhérents. Moi je rencontre régulièrement des gens que j'ai eu en atelier qui sont maintenant parents et même grands-parents, ça fait drôle. Donc par rapport à ça, c'est toute cette histoire-là de médiation sur un territoire. C'est vrai que on a fait deux sites en scène à Surgères où on faisait participer des bénévoles avec les professionnels. Sur avant la mer Denis, il y avait 19 professionnels, mais il y avait aussi la même chose en amateur. Et sur les balades théâtralisées, c'est pareil, il y avait là beaucoup moins de professionnels, on était 5 professionnels, et donc les 30 personnes qui étaient sur ces histoires-là, c'était des bénévoles. Donc leur expérience avec les 3C nous intéresse. Donc, je ne sais pas à qui on va confier ce travail d'interview, mais en tous les cas, on est intéressé à avoir un document qui justement donne tout ce qui a été les 3C sur ce territoire où, effectivement, on avait à une certaine époque une action sur aussi bien des communes comme Saint-Saturnin-du-Bois, Vendré, hier j'étais à l'enterrement de Monsieur Bouteau, qui a été le premier élu à m'avoir fait confiance, qui a financé un spectacle qui s'appelait « Trois petites poules qui caquettent dans le jardin de ma grand-mère ». On a été en résidence à Vendré. Voilà. Donc par rapport à ça, des choses aussi assez étonnantes. On avait fait un spectacle qui s'appelait « Les paysages ont leur histoire ». Ça a été notre plus gros financement qu'on ait eu au 3C. C'était avec la Chambre d'agriculture. Donc on est sur des créneaux assez particuliers, les 3C. On a un parcours à la fois culturel et à la fois vraiment d'implication avec les gens du territoire. Et c'est ça que je voudrais valoriser sur ces 30 ans. Alors dans la programmation de cette année, il y a un autre temps fort qui s'appelle le Festi Lacan. C'est Dominique Lacan qui est dans le CA des 3C depuis, je dirais, 2014, qui a proposé de faire un festival et c'est le couple Lacan, c'est pour ça que ça s'appelle le Festi Lacan, qui loue la salle du Castel Park, parce que nous on a déjà la salle gratuitement pour les 30 ans et on fait une programmation, on fait un festival qui a pour vocation d'être pérenne avec des spectacles des 3C amateurs et professionnels et ensuite on invite des compagnies amies.
Donc un festival de théâtre,
oui, voilà, vraiment sur théâtre, du théâtre. On est vraiment sur le théâtre. Plutôt de la comédie cette année, sauf pour un spectacle qui est donc joué par Nicolas Isambard, qui est aussi sur un ouvrage de dame, mais qui est là, elle est un texte d'une femme, et la mise en scène aussi, d'une femme ukrainienne qui est sur la guerre en Ukraine, qui s'appelle Cette foutue vérité, qui est un texte grave, qui sera donc joué le 23 mai. Puisque ce festival-là, il se déroule du 22 mai au 24.
Sur 3 jours.
Sur 3 jours.
Au Castel Park.
Voilà, vendredi soir, samedi soir et dimanche soir. Sachant que c'est le lundi est férié. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Nous, on est installés à Ballon depuis 2 ans maintenant. Puisqu'à un moment donné, on était un peu à la rue, les 3C. Et donc, on fait des choses avec le local de Ballon. C'est un tiers-lieu. Et donc, on va lire des textes de Dario Fo, la comédienne qui va jouer ses textes, enfin qui va lire ses textes, c'est Céline Sicco. Et moi, j'en profite pour lire mes propres textes, puisque l'année dernière, j'ai été sélectionnée sur un travail d'écriture à Paris avec Harmonique, et que j'ai un panel de textes dont j'aimerais bien savoir ce que je vais en faire, et ce sera un petit peu ma première. Sinon, cet été, on va encore avec un ouvrage de dame au Festival d'Aurillac.
Merci beaucoup Agnès de votre venue sur notre émission. À bientôt, au plaisir de vous rencontrer lors d'un de votre prochain spectacle.
Est-ce qu'on peut retrouver la programmation justement de la compagnie Les 3C Théâtre en ligne sur peut-être une page Facebook?
Alors
ou
on est
internet.
En train de refaire notre site, donc c'est pas encore voilà, le site est en construction là. Je ne cache pas que je cherche quelqu'un justement qui me fasse un site opérationnel.
Merci en tout cas, merci à tous les deux, merci Renaud, merci Agnès Brion d'avoir été avec nous. On souhaite donc un joyeux anniversaire cette année à la compagnie Les 3C Théâtre en attendant de vous revoir en mai pour justement le festival.
Oui, voilà.
On termine cette émission avec de quoi remplir vos agendas. Renaud, on en est où là au niveau des prochaines sorties sur les mois à venir ?
Eh ben, nous démarrons notre agenda culturel avec un événement le 18 février qui s'inscrit dans le cadre du projet ABCI, Atlas de la biodiversité intercommunale. À la Microfolie de Surgères, de 13h à 17h, vous pourrez participer à des animations et expositions sur les zones humides. Aucune réservation n'est nécessaire pour y participer. À 18h30, une balade nature vous est proposée pour découvrir les amphibiens de la commune. Pour cette sortie, la réservation est obligatoire au 05 46 41 39 04. Poursuivons avec un peu de lecture et de musique et deux manifestations qui auront lieu le samedi 21 mars. Le réseau des bibliothèques lance le prix des lecteurs 2026 6e édition à la salle des fêtes d'Ardière. À 15h, venez assister à la présentation des livres présélectionnés par le réseau des bibliothécaires, suivi du vote à main levée du public pour choisir les 5 ouvrages qui seront en concurrence pour la 6e édition du prix des lecteurs. Le même jour, le conservatoire vous propose d'assister à la scène ouverte aux musiques actuelles. Ni uniquement axée sur la transmission orale, ni dépendante de l'écriture sur partition, les musiques actuelles et amplifiées sont une nouvelle manière d'envisager la musique. Ce rendez-vous annuel est aussi l'occasion d'accueillir un groupe invité dans un esprit de partage d'expériences. Toutes ces formations se produiront à 17h à la salle des fêtes de Chambon, dans une ambiance électrique mêlant leur univers funky, pop, rock. À partir du mois d'avril, débute la programmation scientifique et culturelle sur la thématique du sol et de la santé. Des ateliers, conférences, balades nature, rencontres vous seront proposées. Tout un programme qui s'étalera jusqu'au mois de décembre et qui sera à votre disposition dans le réseau des bibliothèques et sur nos sites et réseaux sociaux. Nous poursuivons en musique. Pour son concert de printemps, l'Orchestre d'harmonie de Surgères et le Conservatoire de musique Onisud vous donnent rendez-vous le samedi 4 avril pour une soirée latino au Castelparc de Surgères. Au programme, de 18h30 à 19h30, plongez dans l'ambiance avec une initiation à la bachata menée par Julie et Jérémy de l'association Danse de Cœur. À 20h30, l'Orchestre d'harmonie de Surgères vous embarque sur des rythmes muy caliente. Et à 22h, la fin de soirée est confiée à nouveau à Danse de Cœur pour prolonger le goût et le plaisir de danser. Côté archéologie, la Villa gallo-romaine à Saint-Saturnin-du-Bois ouvrira ses portes pour des ateliers et visites guidées du mardi 7 au vendredi 17 avril de 10h à midi et de 14h à 17h30. Le site sera fermé le week-end. Ne manquez pas, le mardi 7 avril, le chantier participatif en deux temps. De 10h à midi, apportez vos transplantoires ou un moellon oublié et racontez son histoire. Et pour clore cet agenda, le 13 avril, ciné-débat au cinéma Le Palace à Surgères. Venez assister à la projection avec le service environnement.
Merci Renaud, c'est la fin de ce numéro de La Clé des Champs. Vous pouvez bien sûr nous réécouter en podcast sur lnfm.com ou sur le site de la communauté de communes onis-sud.fr. Passez une excellente soirée, on se retrouve très vite pour un nouveau voyage sur Onis Sud. À bientôt.